Cette belle parabole qui nous parle de la miséricorde du Père et la miséricorde du Fils, qui est l'image du Père, qui vient nous montrer l'image du Père céleste que nul ne peut connaître en lui-même, mais que Jésus vient nous dévoile. Cette miséricorde, donc, ce dimanche de mi-carême du Létaré, eh bien, sonne comme une bonne nouvelle. Le Fils prodigue, c'est comme ça généralement qu'on l'appelle, cette parabole du Fils prodigue, donc on a la première partie, c'est le récit de la chute spirituelle, et puis le second, c'est le retour, la conversion, la seconde partie. Alors ça commence donc par la description de cette chute. Les pharisiens, les scribes, eux, s'oppose au salut, c'est comme ça que la parabole est introduite par Jésus, parce que les pécheurs viennent accueillir Jésus et l'écouter, et donc se convertir. Ces pharisiens et ces scribes qui s'opposent au salut considèrent que le salut est une propriété privée, qu'ils sont les seuls dignes à demeurer dans la grâce de Dieu. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des épisodes qui ressemblent beaucoup à ça. Vous voyez, la crise donatiste dans l'Antiquité, qu'est-ce que c'était ? C'était à la suite de persécutions, pas mal de chrétiens avaient fait semblant ou avaient même carrément offert des sacrifices aux idoles pour sauver leur vie. Et après, une fois la paix rétablie, l'évêque Donna et ses partisans disaient qu'on ne pouvait pas les réintégrer dans l'Église. Vous voyez, c'est comme le fils qui s'en va, et puis une fois qu'il revient, le fils aîné lui laisse la porte fermée. La miséricorde, ça consiste toujours à avoir le cœur ouvert. C'est aussi lié à la vertu d'espérance. Le miséricordieux est toujours dans l'espérance que l'autre se convertira, que l'autre reviendra. Cette parabole est une allégorie à la fois individuelle et collective. Individuellement, on la comprend très bien, c'est l'histoire qu'on peut voir un peu partout et à toutes les époques, la nôtre inclus. Un jeune décide d'aller voir, parcourir un peu le monde, d'aller voir ce qui se passe à l'autre extrémité de la planète, où c'est plus coloré, où il a entendu des choses, et puis surtout casser le rythme, ne pas s'impliquer dans une vie sociale, un travail, une vie familiale, que sais-je, quoi, être libre, en un mot. Et libre au sens de libertaire. Ça, il y en a beaucoup comme ça. Et un jour, peut-être, ils ont cette occasion de revenir. Voilà pour le récit individuel. Le récit collectif, c'est Israël. Israël a bien des fois, dans son histoire, il y a eu des exils, par exemple, des déportations, où ils ont toute une population, une partie de la population d'Israël a été disséminée dans un empire païen. Mais pourquoi ont-ils été disséminés dans cet empire païen ? Pas par hasard, pas parce qu'ils étaient des justes, mais parce qu'ils vivaient déjà sur leur terre d'Israël comme des païens. Et malgré les avertissements des prophètes, ils ne se convertissaient pas. Au contraire, ils persécutaient les prophètes, ils pratiquaient des cultes idolâtriques, etc., etc. Donc Dieu tape du poing et permet que leurs ennemis l'emportent au moins temporairement sur eux. Et ils sont dispersés dans le royaume païen, pour bien comprendre ce qu'est le paganisme. Et puis, parmi eux, certains sont revenus. On peut dire que c'est applicable individuellement ou collectivement, cette allégorie, c'est plus qu'une parabole même. Qu'est-ce qui fait partir notre jeune homme riche, là ? Notre jeune homme qui est riche, aime l'argent. Et il est son espérance, il n'a pas mis en Dieu, il l'a mise dans l'argent comme source du bonheur. Il a mis son espérance dans une société matérialiste, qui propose des objets de luxe facilement accessibles, une vie de plaisir, etc., etc. Ce monde nous propose ça, et c'est vrai que beaucoup de jeunes, et de moins jeunes, se laissent séduire par ce type d'appât. L'argent. Il a choisi l'argent, tandis que son père, évidemment, c'est présupposé, est un homme de foi profonde. Plutôt que la foi de son père, justement. Et ce qu'il trouve dans la logique de l'argent, c'est la désillusion, c'est le vide. C'est ça que la parabole nous explique. Et Dieu lui fait toucher, le fait descendre. Parce que non seulement il se trouve sans un sou au bout d'un moment, mais en plus il se trouve dans une situation difficile à cause de la famine. Ainsi, il est amené par la providence à vivre au milieu des porcs. Les porcs, c'est le symbole de l'impureté spirituelle dans la Bible. Et vous savez, les juifs ne mangent pas de porc. Les musulmans sont des imitateurs, ils sont inspirés des pratiques juives, justement. Pas question de manger du porc. Et c'est impur, le porc. Il y a comme ça, on trouve ça dans l'Ancien Testament, une série, toute une liste d'animaux jugés impurs, dont il faut s'abstenir. Et lui vit au milieu de cette impureté, au milieu des porcs. Il va même, vous voyez jusqu'où il boit la coupe jusqu'à la lie, il va même jusqu'à désirer manger la nourriture des porcs. Mais ça ne lui est pas accordé. C'est-à-dire que son espérance, la vertu d'espérance, la vraie, celle du bonheur en Dieu, celle de la vie éternelle, eh bien, est au plus bas, alors c'est le moins qu'on puisse dire. Puis les porcs, c'est le symbole du monde païen en général, c'est le symbole aussi du monde démoniaque. Souvenons-nous l'épisode du Gérasénien qui avait été possédé par une légion de démons. Jésus les chasse et les démons sont envoyés dans les porcs et les porcs sont sous la pression des démons, se jettent dans la mer. Tout cela, le monde païen, c'est pas un monde qui est païen par hasard, d'une manière neutre. Le monde païen, c'est forcément, puisqu'il n'est pas dans la lumière, il est forcément dans les ténèbres. Voilà l'expérience, la chute, que le fils prodigue va vivre. Il avait mis toute sa sécurité dans son orgueil et sa vanité, et celle de sa jeunesse, de sa fougue, de son énergie, et des moyens financiers de son père. Et voilà, il se retrouve pitoyable au milieu des porcs. Enfin, il a ce retour sur lui-même à ce moment-là, quand il a atteint vraiment le fond. Il fait l'expérience vraiment, vous voyez, du monde qui est partout le même. Il s'imaginait à son départ qu'il allait trouver quelque chose de nouveau en voyageant, et puis finalement il ne retrouve rien d'autre que ce qu'il avait laissé derrière lui en partant. Les hommes sont toujours les mêmes, quelles que soient leurs coutumes, leurs usages et le lieu où ils demeurent. C'est ce qui fait que ce sont des hommes de la même espèce que tous les autres. C'est ce qui fait aussi l'universalité de la parole de Dieu. Donc, il décide de revenir dans sa patrie. Patrie, qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque l'idée de famille, un monde familier, un monde familial, un monde de foi, un monde qui est à la dimension de l'homme. C'est tout le contraire de ce monde païen où le jeune homme s'était rendu. Alors, l'aveu de son péché est une étape importante. L'aveu, c'est formuler les choses. C'est pas seulement avoir une mauvaise conscience, vous voyez, où on ne formule rien, on le ressent, c'est le cœur qui nous travaille. Mais il faut formuler le péché. Pourquoi ? Parce que ça consiste à comprendre l'action du mal. Et comprendre l'action du mal, c'est déjà l'exorciser, c'est déjà la repousser. Et c'est pas seulement comprendre l'action du mal, c'est comprendre en même temps la bonté de Dieu, la bonté de la miséricorde divine, la bonté de la loi divine. Donc c'est une étape très importante que celle de cette conversion, de cet aveu du péché. Donc il le formule et il va en faire l'aveu devant son Père, c'est la décision qu'il a prise. Il faut faire pareil pour nous. En carême, il faut faire l'effort de formuler nos péchés. Je ne dis pas devant le prêtre, les formuler en nous-mêmes, mais comme fait d'abord, comme fait ce fils-là, ce jeune homme, dans la parabole. On le formule, mais pour le comprendre, pour en comprendre la nocivité, pour en comprendre les conséquences, pour voir le cheminement que le péché nous fait faire. Bref, en comprendre la logique, la dynamique, et puis la fermeture totale, la mort, quoi, qui est le sceau du péché. Nous devons faire le même effort. Et puis peut-être que s'il y en a un qui est plus gros que les autres, quand même, qui nous empêche de communier, vraiment, eh bien, on va trouver le prêtre et on le formule devant lui à ce moment-là, comme le fils devant le père. Le fils aîné, lui, il confesse finalement dans ses récriminations, eh bien, qu'il a caché dans son cœur finalement les mêmes désirs que son frère cadet. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Alors il ne l'a pas fait, mais il mourait d'envie de le faire et tout le temps. Son frère cadet, lui, il a franchi le pas. Celui-là aussi est vraiment dans une grande imperfection et ne comprend pas la miséricorde divine au point qu'il ferme la porte au retour de son frère. Et puis enfin, la joie de Dieu, c'est la conclusion du texte, la joie que Dieu éprouve pour les âmes qui l'accueillent. Vous savez, on se dit toujours, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? J'ai rien fait dans ma vie pour Dieu. Accueillez Dieu, tout simplement, accueillez Jésus. Et là, le Père sera, Jésus, donc, sera dans une joie immense. Contemplez sa passion, tenez-vous au pied de sa croix. Pourquoi, Seigneur, qu'est-ce que tu ressentais sur cette croix? Pourquoi tu as voulu mourir sur une croix? Ô combien je te rends grâce, Seigneur, parce que par cette croix, tu as voulu me sauver et tu m'as sauvé. Entrons donc dans la joie du Père comme Jésus est entré lors de sa vie terrestre dans la joie du Père. Il exprimait sans cesse, Père, je te rends grâce, tu m'as exaucé, etc. Il faut faire cet effort d'entrer, d'écouter Dieu en un mot, d'entrer dans les sentiments du cœur de Dieu. Le frère aîné ne fait pas ce travail-là. La miséricorde divine, vous voyez, elle engendre, ou elle est fondée, disons, sur une grande fidélité. Le Père reste fidèle à ses enfants, quels que soient leurs défauts dans cette parabole, et sur une espérance qui dit que malgré le péché apparemment sans retour du Fils, eh bien, il y a toujours une espérance de salut, une possibilité de salut. Dieu est ainsi. Dieu est fidèle. Et en même temps, on comprend qu'il nous envoie cette vertu d'espérance parce qu'elle est un de ses propres attributs, en quelque sorte, si j'ose dire. Il veut faire demeurer cet attribut en nous pour nous faire comprendre que l'amour est toujours plein d'espérance. L'amour ne se décourage pas. Alors, au cours de cette Eucharistie, bien, demeurons dans la joie du Père. Tout pécheur que nous sommes, eh bien, ayons confiance en la miséricorde divine.